France Culture.
Et vous écoutez France Culture. Et puis, la notion du mal. Comment se propage-t-il et comment évolue-t-il entre les mondes ? Fabrice Duvel, c'est pas d'erreur, c'est mauvais genre. L'année 1996, en Belgique, la notion du mal prit soudainement pour le monde entier l'apparence d'un homme de 40 ans, Marc Dutroux, reconnu coupable de rapt, séquestration, viol de mineurs et assassinat. Prédateur solitaire ou membre d'un réseau organisé, le débat est toujours ouvert. L'affaire Dutroux, avec celle des tueurs fous du Brabant wallon, demeure le plus fort traumatisme social subi à date récente par le Royaume de Belgique. Près de 30 ans plus tard, le cinéaste de Calvaire, Alléluia inexorable, Fabrice Duvels s'inspire librement de l'affaire pour nous livrer le film le plus sombre, violent et percutant de ce début d'année. Il est ce soir l'invité de Mauvais Genre. Deux villes, Paris et Marseille, des corps en scène et en crise, le désir qui rôde, cherchant qui dévorer. Telles sont les visions que nous offre Esther Teilhard dans Carne, son premier roman qui sort aux éditions Peau Vert, des chairs en enfer. C'est ce soir, bien sûr, dans Mauvais Genre. Générique de Twin Peaks, un début prévisible dans Mauvais Genre pour évoquer la disparition de David Lynch, à qui nous rendrons hommage dans quelques semaines. Mais on tenait bien évidemment ce soir à l'évoquer, et je l'évoque avec vous en ouverture, Philippe Rouillet, vous qui êtes l'auteur d'un documentaire sur Mulholland Drive. Vous avez tenté de décrypter, démonter, remonter cette machine infernale. Réaction ?
Oui, on est tous dans un état de grande tristesse parce qu'on se dit qu'on ne verra plus de film nouveau de David Lynch. Alors, heureusement, il nous laisse 10 longs métrages, une série en 3 saisons. Et l'intérêt des films de Lynch, c'est qu'on a toujours un énorme plaisir à les revoir parce qu'on y puise toujours quelque chose. Et voilà, ça a commencé en 77 avec Eraserhead, ce film très mystérieux. Et puis, dès Elephant Man en 80, moi, il m'avait totalement séduit parce que on pourrait dire que Lynch, c'est le croisement du cinéma de genre et du film expérimental. Et avec un film comme Elephant Man, comme avec Une histoire vraie, il a aussi montré qu'il pouvait rentrer dans un certain classicisme tout en cultivant le mystère et plaire au public le plus large.
Ce soir donc, c'est avec vous, Fabrice Duvel, ce que nous avons rendez-vous à l'univers du dossier Maldoror, une inspiration libre à partir de l'affaire Dutroux. Réaction sur Lynch, comme ça, rapidement,
Je partage absolument ce que Philippe vient de dire, c'est juste très triste. J'étais sur scène quand je présentais le film hier, il y avait une grosse avant-première à Bruxelles. J'étais sur scène quand on a appris la nouvelle, disons qu'il y a eu vraiment un moment de... La salle s'est gelée. L'espace d'un instant, ouais. Vraiment, ouais. On est tous très tristes.
Fausto Fazulo.
Je partage évidemment cette tristesse. C'est un peu le seul cinéaste, je pense, à avoir su créer un lien psychique avec le spectateur. On a souvent dit des films de Lynch qu'ils étaient parfois un peu compliqués, opaques, abstraits. Et en fait, je pense que ça tient à quelque chose de très simple, c'est qu'en fait, on n'entre pas dans l'univers de Lynch. Lynch, c'est quelqu'un qui entre dans notre monde. Donc en fait, on y plaque nos propres obsessions, on y plaque nos névroses. C'est ce qui fait que ces films sont infiniment riches. En fait, ces films sont très simples. Je vais un peu citer un titre d'un de ses longs métrages, Une histoire vraie. David Lynch, c'était un artiste vrai. C'était quelqu'un qui avait une telle spontanéité dans son geste que ses récits étaient en fait d'une grande limpidité. Mais c'est nous, spectateurs, avec notre regard, qui les complexifions.
Merci Fausto. Seconde invitée ce soir, Esther Teilhard, qui n'est pas chroniqueuse et qui vient donc pour Carne, votre premier roman qui sort aux éditions Peau Vert. Réaction sur Lynch d'ailleurs, puisque je sais que vous êtes une grande spectatrice de Blue Velvet.
La peine est partagée. Un monde sans Lynch est un monde
désolé, désolant. Mais ce sera l'occasion de le revoir en boucle, obsessionnellement. Mais oui, je partage la tristesse.
La tristesse du plateau, en tout cas. Nous rendrons évidemment un hommage franc et massif. À
et David joyeux, parce que c'était quelqu'un de très joyeux aussi.
Et
parce
joyeux.
Que là, on est très plombant.
Ah bah, alors
mais...
on est triste.
Voilà, c'était.
Mais on se rattrapera, on sera joyeux. Donc, dans quelques semaines, hommage à David Lynch et pour l'heure, direction Mal d'Aurore.
Qu'est devenue Sabine Dardenne, une adolescente de 13 ans qui a disparu le 28 mai dernier vers 7h30 le matin, alors qu'elle rejoignit à vélo son collège de Quin. Les recherches effectuées n'ont rien donné, les pompiers ont même sondé les secours entre Quin et Peck, sans succès. C'est donc la thèse de l'enlèvement qui a été retenue. Le 18 juillet dernier, la police judiciaire de Tournai a diffusé le portrait robot d'un homme d'une trentaine d'années, type européen, cheveux châtains montrant un front légèrement dégarni. Même le VTT de couleur verte de Sabine n'a pu être retrouvé, ce qui laisse penser à un enlèvement organisé. Les espoirs s'amenuisent.
Bonsoir. Les terribles aveux de Marc Dutroux en Belgique, inculpé d'enlèvement et de séquestration d'enfants. Il a avoué ce soir être l'auteur de plusieurs meurtres d'enfants. Ainsi, la gendarmerie a pu découvrir à son domicile 3 cadavres. Pierre Didier.
3 cadavres ont été retrouvés en début de soirée dans la maison de Sars-la-Buissière. La gendarmerie fouillait les lieux depuis hier soir. Deux des dépouilles semblent correspondre à deux fillettes disparues l'été dernier. Le troisième cadavre serait celui d'un complice que Marc Dutroux aurait supprimé. Dans un climat pesant, tournant au climat de lynchage, Marc Dutroux est revenu cet après-midi à Sars-la-Buissière pour indiquer aux enquêteurs l'emplacement des corps.
Voilà un document INA choisi par Laurent Polleret. Là, c'est l'affaire Dutroux telle qu'elle a été, je dirais, analysée et présentée par la presse. Avec vous, Fabrice Duvels, on va voir un film qui réfléchit sur la nature et l'origine du mal à partir de l'affaire Dutroux. Et au sein de ce film, il y a un personnage qui est extraordinairement bouleversant puisque c'est sûrement un des rares à être humain, peut-être avec le héros Chartier, l'enquêteur frénétique et fanatique. C'est le personnage de Rita, sa mère, qui est jouée par vous, Béatrice Dalle, bonsoir.
Bonsoir.
Alors ce personnage de Rita, il est d'une certaine façon en dehors de l'affaire qui est traitée dans l'affaire de Dieu, puisque le nom a changé dans le film. Comment avez-vous perçu ce personnage et comment vous le voyez au sein du film ?
Alors déjà, j'aime pas le mot personnage parce que je suis pas un enfant qu'on déguise dans une cour d'école. Donc c'est pas un genre de question que je me pose. Pour l'autre fois, la première, vous avez demandé à Sergio Lopez s'il travaillait le rôle avant. Il vous a répondu non, pas forcément. Je comprends qu'il y a des acteurs qui, les Daniel Day-Lewis, qui se préparent pendant des mois et c'est très bien comme ça. Moi, je me pose pas la question. Je le joue avec mon ressenti, mon humanité à moi et l'amour que je pouvais avoir pour Anthony Bajon.
Et ça, alors, pas de personnage, mais cette figure, alors comment vous la traduisez, comment vous l'avez percevez dans l'ensemble de cette histoire?
Je peux pas vous répondre à ça, vu que je vous dis, je me transforme pas en quelque chose. On me dit, je suis la mère d'Anthony Bajon, je vois bien toute sa tristesse et son désarroi. Du coup, il était facile à aimer, quoi.
Du coup, comment ça se passe? Fabrice vous donne un scénario avec les scènes où vous apparaissez, des dialogues, ou c'est plus sur le plateau que vous travaillez? Comment ça se passe?
Déjà, j'ai jamais lu un scénario de ma vie. Et après, c'est le metteur en scène et ce qui va se passer entre nous, si son intellect me séduit, son discours me séduit, je le suis. Vous savez, je compare toujours ça à une histoire d'amour. Vous savez pas où vous allez quand vous rencontrez quelqu'un. Mais je prends le risque et jusqu'à présent, ça m'a toujours réussi, quoi. Alors après, le texte, je l'apprends évidemment pour... Mais la veille, quoi. Je n'ai jamais lu un scénario de ma vie.
Fausto ?
Ce qui est, je trouve, assez intéressant dans ce personnage-là, c'est qu'il est beaucoup, beaucoup plus complexe, en fait, au fur et à mesure qu'il se dévoile. C'est-à-dire que, en fait, vous apparaissez une première fois... Vous êtes une sorte de tornade comme ça, une boule de tristesse, une sorte de boule de colère. Et puis au fur et à mesure où le film avance, le personnage s'apaise. Paradoxalement, le fils, lui, s'enflamme. La question, elle peut sembler un peu compliquée, mais comment on arrive justement, quand on a un acteur comme Anthony Bajon en face, à essayer de placer sa compassion? Comment vous travaillez ça? Est-ce que même si vous lisez pas le scénario, ça effectivement c'est quelque chose que vous avez toujours dit. Est-ce qu'il y a une réflexion justement sur ce type de d'échange, ou est-ce que vous misez tout sur la spontanéité de l'instant lors du tournage?
Ben, j'écoute surtout les indications de mon metteur en scène, quoi. Vous savez, quand je dis que je lis pas un scénario, c'est pas parce que je m'en fous et que je pense à la légère, au contraire, parce que je fais une totale confiance, donc ces indications, je les écoute comme un soldat.
Et quelles étaient ces indications, justement, par rapport à ce rôle? Il y avait un mot-clé, il y avait une expression, il y avait quelque chose que Fabrice Duvels vous a dit?
C'est bien plus simple que ça. Je vais à son mariage, ils se voient plus depuis très longtemps, sans bien que ça va pas du tout entre eux. Elle est à moitié bourrée, ben, imaginez cette situation avec n'importe qui, dans votre vie, dans votre famille. Voilà, je le vis de cette manière, quoi.
Fabrice Duvels, comment ce personnage est né dans le scénario et qu'est-ce qu'il représente pour vous?
Bah, il y a la mère qui a failli au début, et puis après il y a Béatrice, il y a mon amour pour Béatrice, il y a ce qu'elle fait de ce personnage. Je savais de toute façon qu'elle allait amener ce personnage à un point extrême de vulnérabilité et d'humanité forte, et dont j'avais besoin en tout cas pour faire comprendre au spectateur d'où venait Paul Chartier, en fait, d'où il venait. Et ça, c'était très important. J'avais besoin de l'humanité débordante de Béatrice.
Très bien. Bah écoutez, merci en tout cas, Béatrice Dalle, d'avoir pris le temps, alors que vous êtes en répétition, d'intervenir. Oui.
Toujours tout expliquer. Je trouve que ça déflore aussi un petit peu un film, quoi. C'est bien de découvrir un film, mais si vous expliquez tout, si vous analysez tout, je trouve que ça casse un peu la magie, quoi.
Oui, c'est vrai qu'il faut d'abord et avant tout aller voir Maldoror et recevoir le dossier Maldoror et recevoir véritablement le personnage de Rita. Merci beaucoup, Béatrice Dalle, et puis à bientôt, on l'espère, sur Mauvais Genre.
Patron.
Moi aussi.
Ah. Tiens, je te préviens tout de suite, on ne perd pas. Parce que là, je te connais. Ça, voilà. Hey.
Il est en train de partir. Non, il passe pas.
Ouais, c'est Cécile et Elina n'ont que 7 et 8 ans. Leur disparition inquiète les enquêteurs qui n'écartent aucune piste.
Et toi, c'est qui le père d'Elina? Le calabrais? Éloigne sûrement ton père ici en haut quand il est arrivé en Belgique.
C'est lui?
Bah ouais.
Pardon, monsieur, vous êtes là pour quoi?
Ben, on est tous là pour faire le travail de la police parce qu'on constate qu'il ne se passe rien. Quand on leur dit que les petites n'apparaîtront pas ainsi, ils nous disent qu'elles ont juste fugué.
Putain, mais vous voulez pas bouger un peu les flics, hein?
C'est la police judiciaire qui a le dossier entre les mains. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus à la gendarmerie? Une base dans la tête et basta.
25 000 espoirs de retrouver au
plus vite
ces deux petites disparues. Une campagne d'affichage qui représente un investissement conséquent.
C'est pas n'importe quoi.
Voilà un extrait du dossier Maldoror de notre invité Fabrice Duvels ce soir, film inspiré de l'affaire Dutroux. L'affaire est de 96, vous commencez à faire du cinéma un an après. Je veux pas dire on va pas chercher des signes partout.
Non.
Mais il y a quand même, vous, à l'époque, comment vous avez reçu cette affaire? Et puis, je veux dire, éventuellement, dans cette amorce de votre carrière de cinéaste, comment elle a pu jouer?
Ben, l'affaire commence en 95, ouais. Avec la disparition des gamines. C'est l'été. Il y a un embrasement qui se passe dans la population. Il y a quelque chose qui... Voilà, il y a une inquiétude tenace. Il y a des affichettes qui sont placardées pratiquement dans toutes les rues de Belgique. Et un an plus tard, on découvre l'été de nouveau, on découvre le corps des gamines, on découvre les dysfonctionnements, on découvre toute la faillite, en fait, la faillite d'un appareil judiciaire et policier. La guerre des polices, ce qu'elle a provoqué, ce qu'elle a précipité. Moi, à ce moment-là, j'ai 22-23 ans. Voilà, je commence ma vie d'adulte, en fait. Donc, je me projette dans une société que je pense être plus ou moins organisée, avec comme beaucoup de mes compatriotes. Et finalement, on s'aperçoit, on est tous les spectateurs impuissants de ce marasme, de cette béance-là. Donc, je pense que ça a changé quand même beaucoup, beaucoup de choses dans ma perception du monde. Je suis pas le seul, hein, mais... ça a été quand même une longue, longue traversée, quoi, parce qu'il y a eu 96, 98, puis les années 2000, parce qu'il y a eu cette commission d'enquête où tous les soirs on assistait impuissants quand même à cette débâcle, à ces mensonges, ces guerres utérines entre les policiers, les magistrats, enfin c'était vraiment édifiant. C'était pratiquement un spectacle de télé-réalité avant l'heure. Ça a fédéré absolument toute la Belgique. On était tous atterrés devant ce spectacle. On pensait toujours aux parents qui, eux, avaient été d'une dignité exemplaire. Donc effectivement, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense que c'est un trauma qui a profondément marqué le peuple belge, qu'on a essayé d'étouffer depuis le fédéralisme. Ça nous a précipité en tant que nation dans un fédéralisme forcené. Et je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de conséquences. Alors moi, effectivement, je nourrissais l'envie de faire du cinéma, mais très, très jeune. Mais ça me traversait l'esprit de me dire que c'était une histoire incroyable et que peut-être il faudrait faire un film de ça. Mais j'avais...
Ça fait 25 ans que vous souhaitiez faire ce film.
Oui, ça, par étapes, en fait, ça me revenait. Mais je n'avais pas le point de vue. Et puis, c'est 12 000 pages, le dossier. Donc, c'est quand même très, très conséquent. Et puis à un moment donné, j'ai trouvé la porte d'entrée, le point de vue d'un jeune gendarme issu d'un milieu fracassé, qui est zélé, impulsif et idéaliste, et qui rentre à la gendarmerie pour contribuer à sa mesure à l'effort de justice. Et ça me paraissait absolument moralement, alors que je suis pas forcément un moraliste, mais ça me paraissait, parce que là il est question quand même de morale, enfin, c'est une responsabilité terrible de s'engager dans une histoire comme ça. Donc il fallait un point de vue, une porte d'entrée qui soit exemplaire, qui soit juste.
Et à quel moment vous imaginez la structure du film? On pourrait dire avec toute une première partie, je dirais les deux tiers du film qui relèvent vraiment de l'enquête policière, du film criminel, et puis un dernier tiers qui va basculer dans l'horreur pure. D'ailleurs, Toby Hooper est remercié au générique, hein, et on pense évidemment à l'aspect massacre à tronçonneuse, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le cambouis, dans le sang, etc. Cette structure, vous l'avez tout de suite, cette structure en deux parties?
Alors Philippe, je vais d'abord répondre à la question par rapport à Toby Hooper. Toby Hooper, c'est mon maître. Voilà, c'est vraiment la personne la plus importante pour moi, en tant que mentor de cinéma. C'est quelqu'un qui m'a ouvert un cinéma adulte, poétique et subversif. Toby Hooper, aujourd'hui, pour moi, c'est la porte ouverte au cauchemar de la Belgique, de ma propre identité, en quête de ma propre identité. Donc, ce film est le premier volet d'une trilogie que j'espère pouvoir accomplir dans les prochaines années autour des cauchemars de la Belgique. Et ça, c'est vraiment quelque chose que Toby Hooper m'a éclairé par Massacre. Donc, effectivement, il y a des ponts. Encore que je pense que Massacre à la tronçonneuse est indétrônable, mais je pense que c'est pas la même approche. Par contre, effectivement, il y a des ponts. Et par rapport à la temporalité, c'est-à-dire que on a fait avec mon scénariste Domenico Laporta un travail exhaustif de documentation, de recherche précise, mais on a travaillé en deux temps. C'est-à-dire que le premier temps, ça a été vraiment construire l'arc fictionnel dramaturgique de ce jeune gendarme, donc jusqu'au bout, jusqu'au point du chrony. Et dans l'autre temps, c'était de construire et de compiler en fait toutes les grands axes sur différentes temporalités, donc 95, 80, 96, 98 et 2002, qui pourraient, bon, même si au montage ça a un peu changé, mais soit, qui pourraient en tout cas nous permettre de permettre en tout cas les grandes articulations du mouvement dramaturgique de la petite histoire. Donc en fait, c'est la grande histoire qui permet l'évolution de la petite histoire et la petite histoire qui irrigue la grande histoire. Et en fait, voilà, et ça s'équilibre un petit peu comme ça, en fait, c'est comme ça qu'on a travaillé.
Fausto ?
Oui, bah c'est ce qui est justement assez, assez intéressant, voire passionnant dans le film, c'est la manière dont vous glissez, en fait. C'est-à-dire que, moi, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il y a des choses que Fabrice Duvels, par exemple, c'est interdit de montrer, sachant que le film est vraiment d'une grande pudeur, qu'il a les qualités de ce qu'on appelle le cinéma dossier, mais pas les défauts. C'est-à-dire que les qualités du cinéma dossier, c'est effectivement une véritable rigueur dans l'investigation. Et les défauts du cinéma dossier, c'est que parfois, faut se le dire, c'est parfois un petit peu chiant. Or là, le film arrive à avoir cette espèce de rigueur du cinéma dossier, mais s'autorise ce glissement vers le genre, justement, dont parlait Philippe, dans une iconographie aussi de genre. Moi, je trouve qu'un des points communs que vous partagez avec Toby Hooper, c'est cette dimension régionale, c'est-à-dire l'intérêt pour l'endroit d'où vous venez, en fait. Cette envie de le remuer, de le scruter, d'aller littéralement, parce qu'il y a une littéralité dans votre film qui est intéressante, c'est d'aller littéralement dans la fange avec les cochons, et ça, vous le montrez. Mais est-ce qu'il y a des choses, justement, où vous vous dites, non, là, en fait, mon glissement glissement vers quelque chose qui serait un petit peu plus genresque, je vais le réfréner parce que c'est quand même une affaire entre guillemets très sérieuse.
Alors, d'abord, ce que j'ai essayé de faire dans l'approche cinématographique, hein, au sein de la production, c'est de casser ma tendance à un certain lyrisme.
D'où peut-être le fait d'opter pour un format plus carré. Parce que là, vous avez toujours tourné, si je ne m'abuse, en 2,35, c'est ça ? Donc, format panoramique. Et là, on est sur du 1,66, donc un cadre qui est beaucoup plus resserré.
Ouais. Et j'aurais voulu presque un 33, moi.
Oui, oui.
Mais mes producteurs n'étaient pas pour.
Ouais, dans une dimension un peu plus télé,
C'était compliqué. Mais en tout cas, il y avait cette approche analogique. Donc, on cherchait quelque chose d'âpre. De pratiquement néo-réaliste, toute la première heure est pratiquement complètement néo-réaliste. Je pense aussi que c'est mon travail autour du documentaire que j'ai fait avec Béatrice autour de Pasolini, qui a peu changé beaucoup de choses pour moi dans mon approche de fabrication de cinéma. C'est-à-dire que j'ai vraiment étudié Pasolini en profondeur. Enfin, encore, Pasolini, c'est un océan. Hein. On met le doigt et on ne sait pas où ça s'arrête. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui m'est apparu. Donc, j'ai voulu, en tout cas ici, faire un film ancré dans quelque chose de beaucoup plus populaire, parce que je suis en quête de cinéma populaire, et que j'ai l'impression aujourd'hui de plus en plus que le cinéma dévisse du populaire, de plus en plus, c'est-à-dire qu'il y a une dérive presque vers l'art contemporain, c'est-à-dire que ce sont des tapis rouges incroyables, des films concepts, des super auteurs, mais c'est plus du tout comme le cinéma des années 40-50, où il y avait une porosité au populaire. Et donc moi, modestement, c'est ce que j'ai essayé de faire. Je me suis dit, non, je vais vraiment, parce que le sujet est populaire, ancrer vraiment ce film dans un vrai corpus populaire. D'ailleurs, Paul Chartier, le jeune gendarme, est le bras armé populaire, en fait. Et il fallait rendre grâce aussi à une population qui a particulièrement souffert de cette affaire, donc la population du Hainaut, hein, cette région cabossée du sud de la Belgique, ancienne ville sidérurgique. Enfin, il y a quand même beaucoup de problèmes dans cette zone-là. Donc aussi une grande immigration sicilienne et italienne. Donc je voulais que tout ça soit homogène, en fait, que tout ça s'incorpore dans ce film, et parler, me mettre au milieu des gens, en fait, passer beaucoup de temps à Charleroi, et avoir démarré le film avec cette approche-là, une approche néo-réaliste, et lentement, avec la dérive obsessionnelle du personnage, glisser doucement, le plus doucement possible, vers une forme d'expressionnisme, si je puis dire, en tout cas viscéral, qui reflète en fait les contours de l'obsession de Paul Chartier.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
François Angelier qui reçoit ce soir Fabrice Duvels pour évoquer le dossier Maldoror inspiré de l'affaire Dutroux, Philippe Rouillet.
Alors, il y a dans cette première partie, il y a notamment la scène du mariage que je trouve extraordinaire avec cette communauté sicilienne, et on sent un peu comme dans Voyage au bout de l'enfer qu'il s'agit de fêter, de s'accrocher à une vie qui va pas mal être secouée. Mais vous faites le choix avant de faire une séquence très forte, qui est une séquence d'arrestation, qui est déconnectée de la future affaire de Dieu, qui permet, en fait, c'est l'idée de montrer comme ça ce qu'est votre personnage. C'est-à-dire que même s'il va avoir trouvé une famille d'accueil avec sa belle famille qui l'accueille à bras ouverts et tout ça, il y a une déchirure, et on sent que quand il intervient auprès d'un enfant qui est maltraité, c'est presque lui, quoi.
Tout à fait. Tout à fait, c'était vraiment l'idée, en fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment l'idée de faire un portrait d'un enfant brisé qui veut s'extraire profondément de sa condition d'enfant brisé pour devenir un homme juste. Et vu le milieu d'où il vient, et pour lui, s'extraire, c'est devenir gendarme et contribuer à l'effort de justice. C'est un prolo, en fait. Sauf qu'il est hypermnésique, il a des capacités cognitives extraordinaires. Et cette idée de hypermnésie et amnésie, parce que ça fait 30 ans que cette affaire a eu lieu, il y a vraiment une amnésie complète dans la population belge, quelque chose qu'on veut taire, qu'on veut absolument contenir, pour pas faire de vagues. Ça, c'est quelque chose de typiquement belge, hein. Il y a beaucoup, c'est un pays assez jeune, et il est traversé par des choses quand même qui sont très très problématiques. Et vraiment, il y a cette idée d'amnésie. Donc voilà, je voulais opposer avec un personnage complètement hypermnésique. Et puis effectivement, il y a toute la première heure qui est sa condition, le long mariage. Alors, on m'a souvent signalé qu'il faisait penser au Voyage au bout de l'enfer de Cimino. Très, très franchement, Philippe, et je vous assure que c'est vrai, c'était pas une référence consciente. C'est quelque chose qui m'est apparu comme ça, assez justement. Aussi parce que prendre du temps avec tous ces personnages-là me permettait de décupler à la fin du film, l'approche émotionnelle, l'approche populaire émotionnelle. Parce qu'on a le temps de les voir, de les comprendre, de les sentir, de les aimer presque. Parce qu'ils sont proches, ils sont humains, ils sont crus, ils sont vrais, ils sont authentiques. Et donc là, à la fin, quand on voit, quand Paul Chartier a commis son acte irréversible et que tous les gens qu'on retrouve voient à la télévision et voient les commentaires du journaliste, il y a vraiment une émotion, à mon avis, qui s'empare très très fortement, en fait, chez certains spectateurs, en tout cas chez moi. Donc c'était important et encore une fois, je voulais vraiment profondément rendre grâce à cette population, lui rendre une dignité et une intégrité, non pas pour que je me prenne pour Robin des Bois, mais parce que c'est une population qui a vraiment outrageusement souffert et qui a été méprisée pendant plusieurs décennies et qui m'apparaît être pourtant très très digne. Et donc par le biais de la fiction, par le biais de la tragédie, par le biais du cinéma, de la foi indestructible du cinéma, je voulais leur rendre hommage et leur rendre un peu l'intégrité de Paul Chartier.
Alors, Paul Chartier, il a cette dimension héroïque de soldat de la vérité qu'on trouve aussi dans les romans Angelino de James Ellroy, c'est-à-dire un enquêteur qui se laisse emporter par son enquête et qui ne devient plus qu'enquête lui-même, qui ne vit que de documents, de preuves, d'indices, de pistes, qui les rassemble autour de lui jusqu'à une espèce de délire frénétique et paf, on trouve, et enfin là, on trouve chacun à sa manière de trouver. Ça, c'est le côté Chartier. Mais alors, en face, il y a les extraordinaires, la phalange du mal, les bêtes de l'abîme. Alors, il y a d'abord Sergi Lopez qui joue Marcel de Dieu, je dis pas d'erreur de prénom, Marcel de Dieu, le garagiste. Il y a aussi le personnage joué par Jackie Berroyer, qui est absolument terrorisant avec sa moumoute peroxydée et ses lunettes carrées. C'est effrayant, le côté gourmette, personnage terrible. Et puis cet autre personnage qui s'appelle Claude, oui, dont le bruit des claquettes me reste en tête depuis que j'ai vu le film au mois de septembre pour la première fois. Donc là, comment avez-vous géré cette espèce de trio effroyable? Il y a même, j'oublie le quatrième, qui est l'homme aux pilules, qui va pêcher les petites filles depuis le fameux van blanc qui lui est qui fait ça comme il irait installer des légumes dans un marché. Enfin, je veux dire, là on a un quatuor qui est pas le quatuor de Los Angeles mais le quatuor de Charleroi qui est absolument terrorisant. Alors là, comment les avez-vous conçus, pensés, écrits et vivre avec eux?
Alors après, c'est un travail de casting, c'est-à-dire que je pense que les gens le savent, Benoît Poelvoorde aurait dû normalement faire Marcel de Dieu. Pour plein de raisons, Benoît a finalement décliné, et donc je me suis... c'est-à-dire que Sergi Lopez faisait partie du casting, Sergi a repris le rôle, et je pense que ça a été quelque chose d'assez miraculeux, parce que de très loin, en fait, du vrai Marc Dutroux, sans charge responsable. C'est-à-dire qu'il, pour un acteur belge, c'est compliqué. En fait, je pense que c'est compliqué d'endosser ce personnage. Et pour les autres, c'est du casting. C'est aussi des gens que je connais bien. Je suis très proche de Jackie Berroyer depuis des années. David Murgia qui joue Didier Renard aussi.
Berroyer. Calvaire, ouais. 2004, ouais. Pas d'erreur, ouais. C'est déjà quasiment une sorte de personnage à la Dutroux, puisque Laurent Lucas arrive avec sa petite camionnette, sans rien demander à personne, et il tombe sur un personnage, un nasse, qui l'emprise avec ce Bartel, l'aubergiste, qui est déjà personnage de Maldoror. Donc il y a la mémoire longue quand même sur le casting là.
Oui, on voit bien, il y a deux, trois personnes que je retrouve à chaque fois, mais parce que j'aime bien les familles. Moi, j'aime bien travailler en confiance. Puis après, je me suis un peu cassé la gueule. J'ai eu des expériences parfois un peu difficiles, dans des productions un peu difficiles. Et finalement, maintenant, aujourd'hui, je me protège. Je fais vraiment attention à qui rentre dans mon cercle, en tout cas dans mon cercle de travail, parce que le cinéma, tout le monde sait un peu que parfois c'est un peu toxique, ça peut être un peu difficile. Donc, il faut se protéger pour pouvoir aller au bout de ce qu'on entreprend. Donc effectivement, des gens comme Berroyer, Laurent Lucas, David Murgia, Sergi Lopez sont des gens qui sont incroyablement généreux et des gens intelligents, des gens constructifs. Donc travailler avec eux, c'est toujours un plaisir. Oui, c'est vraiment une joie. Donc on s'amuse. En fait, on compose.
C'est ça qui est extraordinaire. Ouais. C'est un film dont on sort quand même, et on a besoin de s'asseoir et de respirer un peu, oui, ben on peut le dire. Mais vous dites, on le fait quasiment en rigolant.
On s'amuse beaucoup.
C'est peut-être cette espèce de tension entre une décontraction de tournage et des tremblements pour terroriser les spectateurs qui fait que, bon, voilà.
Après, je pense que aussi, quand c'est comme Peter Lorre dans M. le Maudit, en fait. On sent que Peter Lorre a une humanité incroyable, mais quand il est au service d'un personnage sombre, trouble, maléfique, l'humanité transparaît quand même. Et je pense que Berroyer, il y a ça. Berroyer a vraiment une humanité incroyable. Murgia, Sergi Lopez et les autres. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment quelque chose. C'est des gens très, très humains. Et donc, au service de personnages maléfiques, on rigole, parce que c'est des gens qui ont de l'humour et on sait rire, mais surtout, on voulait absolument rien romantiser, c'est-à-dire qu'il fallait absolument pas que le salopard, que le dégénéré soit fascinant. On voulait le rendre bestial, animal, comme tu dis.
Pathétique.
Voilà, c'est-à-dire que voler un kilo de carottes ou enlever trois gamines, pour eux, c'est pareil.
C'est ce qu'il y a de pire.
Voilà, c'est la banalité du mal dans ce qui est là de plus dégueulasse, quoi, de plus. Parce que, en fait, c'est ça, les deux grandes questions qui ont irrigué toute la production du film, de l'écriture à la fin du montage, c'est vraiment la question de la justice. Que peut faire un honnête homme dans une société où la justice faillit? C'est vertigineux comme question, il me semble. Et la question du mal, c'est quoi le mal? Comment il se propage? Est-ce que c'est des mecs dans une cave qui font des saloperies à des gamines? Ou est-ce que c'est la guerre des polices, la rétention d'informations, la corruption à un plus haut niveau? En fait, comment le mal... quel est le mal? Quelles sont ses conséquences? Comment il se propage? Ça, ce sont des choses qui sont fascinantes d'un point de vue métaphysique. Mais quand on les retranscrit de manière organique et viscérale, comme on l'a fait... Parfois en s'amusant, c'est encore plus fascinant, quoi.
Gendarmerie, ouvrez ! Gendarmerie de Charleroi.
Pourquoi ?
Nous avons un mandat de perquisition délivré par le parquet de Charleroi et la juge Renac pour fouiller le domicile de Marcel Dedieu. Il vit bien ici ?
Il n'est pas là.
On va rentrer quand même, excusez-nous.
Ça va durer longtemps?
Si vous coopérez, ça devrait aller vite.
Vous cherchez quoi?
Des pompiers de voiture, des clés.
Faut montrer le garage, madame.
Luc! Luc, descends! Je refuse à vous montrer, mais je dois donner à manger à celui-là.
Mon collègue va l'accompagner. Je préférerais que vous n'utilisiez pas de téléphone pendant toute la perquisition.
Bonjour. Tu peux me montrer le garage? C'est à toi ce vélo? C'est un vélo rose?
Philippe Rouillet.
Moi, j'aimerais savoir comment s'est passé le travail de montage, parce que le film est long, hein, il passe par toutes sortes de circonvolutions. Est-ce que ça a vraiment bougé au montage? Parce qu'on est découpé en années, donc on peut pas faire complètement les pieds au mur, mais j'imagine qu'il y a des blocs qui ont dû glisser, et il y a une question de dosage. À quel moment on bascule dans le point de vue, des méchants, enfin, du mal, à quel point de vue... Voilà, comment ça s'est fait, ça?
Bah, ça a été un gros travail.
Fabrice Duvel.
Ça a été vraiment un gros travail. Alors, j'ai un monteur, Nico Lennon, qui est un grand monteur, hein, qui est le monteur de Felix van Groningen, qui a travaillé avec avec Ryan Gosling sur son premier film, qui a monté une grosse partie de Ad Astra de James Gray, qui est mon voisin en plus. Ça fait des années que je veux travailler avec lui. On se connaît bien. Là vraiment, on a commencé une collaboration qui, à mon avis, va être assez pérenne. Nico est quelqu'un qui est un artiste, qui est presque un musicien. C'est quelqu'un qui a une musicalité et un rythme incroyable. Et donc ça s'est opéré vraiment avec le montage, bien sûr, l'écriture sur la base de ce qu'on avait écrit, qui était déjà assez costaud, le tournage et la musique. Donc Nico a travaillé énormément en amont pendant le tournage déjà. Puis moi je l'ai suivi un petit peu, mais comme je suis jamais dans la salle de montage parce que je suis un peu hyperkinétique, donc j'ai du mal à rester assis pendant 3-4 heures.
Mais là c'est bien, tout se passe très bien.
Il faut que je bouge. Donc Nico a travaillé beaucoup, donc on a trouvé le bon équilibre comme ça pour travailler. Mais c'est sûr qu'il a modifié beaucoup de choses. Il y a des temporalités qui ont sauté, il y a des choses qui ont été coupées, notamment il y a tout un moment où Paul Chartier se fait passer pour mort quand la maison brûle, donc il y a l'enterrement qui répondait à la scène de mariage, qui était un enterrement très très solide.
Vous avez tourné?
On a tourné sous le cagnard, on aurait dit vraiment un film italien des années 50, enfin c'était vraiment magnifique. Tout ça à mon avis sera dans le DVD, hein, je pense. Et donc voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été articulées, mais toujours dans le point de vue de Paul Chartier. C'est-à-dire que on voulait absolument être en immersion profonde avec ce jeune gendarme, ne pas le lâcher, même si effectivement, comme tu dis, on bascule le point de vue parfois de temps en temps, parce que nécessité, quoi. Il fallait donner des contrepoints. C'était pas possible d'adopter le point de vue unique de Paul Chartier, comme dans Taxi Driver, par exemple, c'était pas possible. Donc voilà, il y avait des contrepoints, mais ça a été un gros travail, ça a été vraiment très très minutieux, et effectivement s'arrêter au bon moment, faire travailler beaucoup le hors-champ. J'avais une obsession, c'était vraiment faire travailler le hors-champ. Permettre aux spectateurs de frémir tout en... Parce qu'effectivement, la scène de la perquisition, ou quand il descend, par exemple, quand Sergi Lopez descend avec ses deux parts de gâteau dans la cave...
Avec le rigopnol.
Ça, c'est un moment...
Donc voilà, c'était ça les grandes lignes. Travailler le hors-champ et un travail le plus sensible possible. Et de rythme...
Posto.
Une remarque sur le fond. La première vraie secousse, en tout cas pour moi, hein, pardon d'être un peu narcissique, c'est le générique en fait.
Oui.
Le générique, le travail justement sur cette texture des images télé, le travail sur le son, l'arrivée du titre.
Les filtres rouges.
Y a, de manière générale, en fait, il faut très peu de temps avant qu'on se rende compte si un film va être puissant ou pas. Ça se joue souvent au générique, en fait, je trouve. Hein, les premières secondes, en fait, donnent un petit peu le là. Ce générique-là, justement, comment vous y avez réfléchi, comment vous avez travaillé? C'est pas un film dans le film, mais quand même, c'est une création un peu à part. Comment il a été pensé et conçu, ce générique?
Alors, j'avais une idée assez précise de ce que je cherchais, notamment dès l'altercation avec le père qui bat son enfant. Donc il y a une altercation très physique, et je voulais quelque chose de massif avec les lettres de Maldoror qui ponctuent, en fait. Donc on a fait des essais avec Vincent Cahet, le musicien, très vite. Et puis après, je savais que je voulais donner une espèce de tampon entre, effectivement, cette espèce d'introduction, de prologue avec ce qu'il va suivre, donc qui est une sorte de tampon qui nous ramène à quelque chose d'éminemment populaire, de colère populaire. Alors le rouge est pas pour, même si j'adore le rouge au cinéma, c'est toujours payant, mais le rouge, il exprime la colère populaire. Il y avait vraiment cette idée d'embrasser cette colère populaire, qu'elle soit pratiquement immersive, c'est-à-dire que le spectateur, même le spectateur français, anglais, japonais ou coréen, qui est un peu plus loin de l'affaire,
mais il ressent, il
plonge dans la colère, le pouls cardiaque de Paul Chartier. C'est-à-dire que vraiment, d'emblée, on dévisse, on bascule avec lui dans cette espèce d'aveuglement colérique, en fait, parce que c'est une colère rentrée. Et moi, je ne peux que m'identifier à Paul Chartier, en fait, dans mon tempérament, bien sûr, mais aussi dans la colère que tous les Belges partagent par rapport à cette histoire.
Et la musique de Vincent Cahet a cette dimension un peu pulsative,
tout à fait,
justement, dans le générique. Et ce que moi j'ai apprécié, c'est vrai que François parlait de James Ellroy tout à l'heure, mais et j'ai parlé de cinéma dossier, mais la musique, il y a une sorte de ritournelle un peu morriconienne dans le film. Ah oui. qui renvoie justement à ces films paranoïaques italiens, les films de Damiano Damiani, les grands films d'enquête aussi, où on voyait des personnages qui sombraient, qui étaient complètement rongés par l'obsession.
120 jours à Palerme.
Exactement. Ouais. Et cette musique, qui rappelle les grandes heures du cinéma populaire, en fait, elle illustre aussi la note d'intention que vous avez évoquée au début, c'est-à-dire faire un film tout ce qu'il y a de plus sérieux et documenté, mais avec cette dimension d'ouverture vers le public.
Absolument. C'était vraiment ce qu'on a cherché à faire. Et aujourd'hui, parce que bon, j'ai un peu d'expérience, j'ai fait quelques films et j'ai essuyé quand même beaucoup, beaucoup d'échecs. Donc je me sentais... c'était un peu le film où je voulais me confronter à quelque chose de plus grand que moi, de plus fort que moi. Je pense qu'avoir fait le tour un peu de mes propres névroses. Et aujourd'hui, il n'y a plus que ça qui m'intéresse, en fait. C'est... Et paradoxalement, ça m'apaise. Ça m'apaise beaucoup d'ailleurs.
Le film est très humble, en fait. C'est-à-dire qu'il y a, oui, complètement, c'est-à-dire qu'il est, il est à la fois effectivement très pudique sur le drame qui est arrivé à toutes ces personnes, et en même temps, il y a jamais, on ne sent jamais l'espèce de démon du réalisateur qui vient comme ça surplomber le récit. Il y a une sorte d'effacement qui sert complètement le film et le propos.
Avec toute une ampleur, quand même.
Oui, bien sûr.
Le film a un côté presque fresque. C'est ça qui est formidable, mais pas avec un réalisateur qui fait le malin derrière. On est d'accord. Mais c'est aussi avec cette idée d'être avec le personnage. Et Anthony Bajon, il faut le dire ici, il est exceptionnel.
Exceptionnel, je suis bien d'accord, oui. Mais moi, j'ai repéré Anthony dans le film de Cédric Kahn, La Prière, il y a quelques années. Très vite, j'ai su que c'était un acteur pour moi. Vraiment. Mais vraiment, hein. Alors j'ai suivi absolument tous les films qu'il a pu faire. Je l'ai rencontré un peu en amont de la production de Mal d'Aurore à l'époque. Et je pense qu'Anthony aussi, pour des raisons personnelles, a tout de suite adhéré au projet et a mis sa colère au service du personnage. Vraiment.
Il est venu à Charleroi dans les repérages avec vous, c'est ça ce qu'il explique.
Hein. Oui, ça a été important. Je pense que pour lui, ça a été un déclic, parce qu'on en parlait, Mais voilà, Charleroi, la Belgique, tout ça, ça reste un peu loin quand même. Même si c'est à côté, mais le fait d'être à Charleroi, de comprendre, de sentir la ville, de renifler les gens, il a très vite compris, physiquement, même de manière intuitive, comment il devait aborder le personnage.
Des dizaines de flashs reflètent sur la vitre du box blindé. Ils sont là tous les quatre, ceux que la Belgique attend de juger depuis 8 ans. Mais Marc Dutroux soigne son image, il ne veut pas être filmé. Pour nous, il ne sera donc qu'une silhouette, une ombre. À ses côtés, son épouse, Michel Martin. Son complice de toujours, souriant, Michel Lelièvre. Et Michel Nihoux, l'homme qui, dans le box, incarne la thèse du réseau. Bouleversé, prêt à tout revivre, les parents d'Anne et des Fieux, les deux dernières victimes à avoir été découvertes mortes en septembre 96. Et le face-à-face est insupportable, car dans le box, Marc Dutroux est avachi, la tête entre les bras. Le président de la cour d'assises le rappelle à l'ordre. Dutroux fait mine de se redresser. Mais pour la mère d'Anne, l'attitude de l'accusé est insultante.
Parce que je ne crois pas que c'est une place pour dormir. Hein. Si on veut dormir, il faut aller dans son lit. Oui. Et ça m'énerve.
Peut-être parce qu'il a mal dormi cette nuit, rongé par le remords. C'est une hypothèse à laquelle je ne crois pas. Ou bien, plus simplement, il a voulu montrer le mépris qu'il avait pour la justice en général et ses victimes en particulier.
Là, une archive choisie par Laurent Polleret, Dutroux qui s'endort à son procès. Il faut le faire quand même. C'est quand même des moments. Tout le monde est totalement effrayé, tétanisé, et lui dort.
Oui. Alors, permets-moi, François, de pas trop parler de Dutroux. Je pense qu'il serait trop content qu'on parle de lui. Je suis sûr qu'il doit nous écouter en plus.
On n'en parle plus, mais alors parlons des figures de l'ordre, parce qu'on a évoqué le fantassin de la vérité, Anthony Bajon, jusqu'à la folie. Les personnages qui sont quand même le quatuor de malfaisants. Alors maintenant, il y a d'autres malfaisants, on peut dire. Mélanie Doutet, donc, qui joue le genre d'une juge, dont l'ascension sociale et hiérarchique, visiblement, se fait au gré de certaines complaisances. Je suis poli. Et Laurent Lucas, qui a d'abord été fracassé physiquement lors d'une intervention, il a la moitié de la figure ravagée, l'autre va bien, et qui lui aussi rentre dans le jeu, je dirais, des tripotages et de la courtisanerie hiérarchique.
Oui, on est dans la politique. Alors, bien sûr, on peut me taxer. Enfin, je pense que ceux qui aiment pas le film, ils verront peut-être quelques facilités. Ce que je peux comprendre, mais encore une fois, c'est du cinéma. Et puis, tous ces gens s'inspirent directement de personnes qui ont existé. Hein. La juge s'inspire directement de... Je vais pas la nommer parce que je pense qu'elle est plus de ce monde, mais la phrase « ce n'est pas les parents à faire la justice, c'est à l'État », elle a été prononcée. Il y a quand même un mépris pour les parents et pour le peuple qui a été assez signifiant durant ces années-là et qui a profondément mis en colère, encore une fois, la population. Il faut bien comprendre que c'est une affaire qui commence comme un fait divers et qui termine comme une affaire d'État, c'est-à-dire que l'affaire Dutroux a failli faire basculer la constitution belge. C'est-à-dire que la Belgique a failli imploser. Et si les parents qui sont restés les parents des victimes, qui sont restés d'une dignité absolument exemplaire tout au long de l'affaire, avaient appelé lors de la marche blanche à un renversement, ce renversement aurait eu lieu. Je pense qu'il faut bien comprendre jusqu'où ça a été, en fait. C'est une affaire d'État. Donc c'est en ce sens-là que c'est une affaire très différente de Fourniret par exemple ou des disparus de Lyon ou d'Outreau ou que sais-je, parce que c'est vraiment on touche aux limites de l'État, au dysfonctionnement profond d'un appareil judiciaire qui à mon avis est quand même, et je me suis quand même lu beaucoup de pages du dossier, il y a quand même des béances incroyables, il y a quand même 30 témoins directs ou indirects qui sont morts dans des circonstances complètement folles. Donc des gens qui glissent, qui meurent, qui se pendent, qui ont des sorties de route. Il y a un bouquin là-dessus. Hein. Je n'invente pas. Donc de temps en temps, je vois bien qu'il y a une résistance chez certains qui me traitent de complotiste, mais je suis pas du tout complotiste. Moi, si j'avais dû faire un film sur la thèse officielle, ça aurait été un film épouvantablement mauvais.
Pas un film procès, vous
non.
Imaginez
non,
pas.
Non, mais
un
ça aurait
film
été terrible
procès.
Parce que le film, l'affaire officielle, elle est pleine de trous, de béances. Qui peut croire que Dutroux est l'alpha et l'oméga de toute cette affaire? C'est complètement insensé. Donc c'est très trouble. Je pense que ça va au-delà. Et donc effectivement, tous ces personnages de vilains, de méchants, qui sont parfois certes un peu fortement dessinés.
Ils sont cinématographiques.
Voilà, c'est ça. Moi, je reste dans mon rôle.
Bien sûr.
Je reste dans mon rôle qui est le rôle du cinéaste. Je ne suis pas juge et encore moins avocat, quoi.
Il y a un goût comme ça qu'il y avait dans le cinéma depuis toujours, des seconds rôles et des trognes.
Bien sûr.
Le dossier Maldoror de Fabrice Duvels, le film à voir, visible dans les salles depuis mercredi 15 janvier. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Demain, dimanche. Choisi par Laurent Polleret. On passe maintenant au deuxième sujet, deuxième invité de ce soir. Bonsoir Esther Taillard.
Bonsoir, mauvais genre.
Alors, on vous connaît comme chroniqueuse dans cette émission, mais là, on vous découvre comme romancière avec ce roman percutant. Alors, je veux dire, c'est l'équivalent de Maldoror, mais sous une forme narrative et littéraire. Carne au pluriel, qui évoque un film lointain de Gaspard Noé, qui paraît aux éditions Pauvert, et il est bien à sa place, puisque c'est un roman dont la violence, l'incarnation, l'érotisme et la flamboyance évoquent les grandes heures de la maison Pauvert. On est contente que cette maison, grâce à vous, ressurgisse. Alors, Carne, c'est un roman, mais c'est aussi un journal intime, un journal de voyage entre deux villes qui sont Marseille d'abord et Paris ensuite. C'est une évocation de corps, surtout des corps féminins, avec un milieu privilégié sur Paris qui est celui des Beaux-Arts de Sergi, c'est tout un travail sur l'écriture. J'aimerais qu'on parle d'abord du titre carne, parce que le mot carne veut dire à la fois la bidoche, la viande, une viande un peu dure, un peu avariée. En même temps, quand on dit de quelqu'un c'est une carne, c'est quelqu'un de pénible, de difficile, d'insupportable. Pourquoi carne au pluriel, Esther Taylor?
Carne, oui, d'abord le sens de viande, de corps à l'état plus que sauvage, plus nu que nu. C'est le premier sens du titre. Mais en effet, en général, on dit d'une femme qu'elle est une carne, ça veut dire qu'elle est une sorte de dégénérée, une cassos, une cagole, une connasse. Moi, c'est ça qui m'intéressait. Il y a énormément de personnages féminins ainsi dans le roman. Carne, c'est le corps féminin complètement dans tous ses états, on va dire.
Alors, je parlais de deux villes, deux pôles dans ce livre, Esther Taillard. Donc, le premier, c'est Marseille. Alors, je vais vous citer, c'est toujours le meilleur moyen d'engager la discussion. Le mot juste existe à Marseille. Un homme dans la rue a failli m'écraser. Je l'ai traité de connard. Il m'a dit « grosse pute, si t'étais pas moche, je te défoncerais la chatte ». La phrase était concise et claire. Je n'ai rien répondu, je n'avais rien à rajouter. Chaque mot avait son point de fente violonté, économie de syntaxe, clarté du propos. Tout était dedans, les grosses, les putes, la destruction et la chatte. Cette phrase était un opéra. Elle disait tout comme Don Giovanni, qui résume à lui seul le viol, le meurtre, la vengeance et l'Eucharistie. Que dire après cette phrase? Le sang marseillais est épais, gonflé par ses quatre piliers. Voilà, je crois que ce paragraphe dit tout. Il y a à la fois la volonté du cru, on est à ras la rue, à ras les hommes, à ras la chair, on est dans l'incarnation. En même temps, il y a une volonté de, je dirais pas de décantation, mais de distance, quand même de surplomb, presque un peu rapace, un peu violent. Et puis il y a surtout cette ville, Marseille, c'est votre ville. Quel compte avez-vous à régler avec elle? Quelle prière avez-vous à lui adresser, Marseille?
J'en ai des tonnes. Moi, j'adore cette ville et je la déteste. Je pense que ça se ressent dans la manière dont la narratrice parle de cette ville. Mais j'ai voulu la traiter comme un personnage en soi. J'ai voulu que Marseille soit une sorte de, passez-moi l'expression, mais une sorte d'énorme queutard qui n'arrive pas à bander. Parce que c'est une ville de désir et de frustration. Il y a une sorte de supplice de Tantale, je trouve, à Marseille. Et j'avais envie de traiter toute la bizarrerie, tout le paradoxe de Marseille, qui est une ville à la fois de grande pudeur et d'exhibition aussi, beaucoup. Une ville très individualiste et très communautaire. Tout ça est très bizarre. J'avais envie de parler de Marseille comme ça. En fait, Marseille, artistiquement, est très difficile, je trouve, à pénétrer. Parce que c'est une ville qui est soit... on en fait trois caisses, elle est ultra glamourisée. Soit... jugée complètement inhabitable, gangrénée par le trafic de stupes et compagnie. C'est pour ça que j'ai voulu l'aborder comme un personnage. Marseille est un mec dans le livre.
Alors, c'est aussi un livre sur les femmes, sur les corps de femmes. Esther Taillard, il y a à la fois les cagoles, qui sont les maîtresses qui règnent sur les plages marseillaises, des véritables divinités. Et puis quand le personnage monte à Paris, qu'il va aux Beaux-Arts de Cergy, là, il y a d'autres figures qui apparaissent, notamment la figure d'Estia, que vous décrivez comme une sorte de pornstar slave, mais qui est aussi quelqu'un de fracassé. Quel hommage j'avais voulu rendre aux femmes et quel corps de femmes, qu'avez-vous voulu dire du corps des femmes?
C'est vrai qu'il y a énormément de femmes dans le roman. Il y a, on va dire, un homme, mais qui est assez secondaire. J'avais envie d'incarner le désir et le vacarme, la violence du désir par ces personnages de femmes. Donc c'est que des personnages de femmes très, très violentes. Donc il y a les cagoles qui, quand elles parlent, vomissent.
Et la mère de la narratrice.
Il y a la mère de la narratrice qui est procureure de la République à Marseille et qui laisse traîner ses dossiers de viol devant sa fille.
Alors, il y a une scène, alors là, Fabrice Duvet, je me tourne vers vous, qui est extrêmement cinématographique. Il y a la petite fille qui joue au ras du sol, comme ça, à quatre pattes sur la moquette, et puis qui se rapproche, qui tombe sur les dossiers et qui ouvre un dossier. C'est un dossier de viol en réunion. Donc il y a une sorte d'initiation à la réalité brute du corps et du crime, comme ça. Ça c'est tout à fait étonnant.
Oui, il y a une sorte de bizarrerie avec ces personnages féminins. En fait, j'avais envie que ces femmes soient, ces personnages soient violents, non pas par sadisme, elles ne sont pas du tout sadiques. Elles évoluent toutes dans un environnement violent, et elles répondent à la violence par la violence. Je trouve que finalement, elles sont assez lucides. Puis il y a quelque chose aussi, j'avais envie de regarder les femmes dans ce roman comme Marseille regarde les femmes. C'est-à-dire que grandir à Marseille. Moi, j'ai grandi à Marseille. Ça apprend à être regardé durement. Et donc à regarder durement et à être sacrément coriace. En fait, la narratrice, elle se met à regarder les femmes dans la rue avec presque une sorte de cruauté, comme un petit homme latin qui mettrait les culs dans la rue, quoi. C'est un peu ce qui se passe. Voilà. Et puis il y a aussi le personnage, enfin une figure qui m'a complètement fascinée et qui me hante, c'est la figure de Mireille Havé dont je parle, qui est donc cette lesbienne opiomane du début de siècle, qui était un génie littéraire absolu et qui vole un peu dans le roman, qui hante le roman, parce que c'est un personnage qui, je trouve, mêle parfaitement cette violence et cette solitude, cette urgence du désir.
Alors Mireille Havé est un peu la fée penchée sur le berceau, c'est une sorte de fée malade, de fée tragique. Alors justement sur le plan de l'écriture, parce que là il faut en parler. On n'est pas dans une narration classique, il n'y a pas des scènes à faire, les dialogues sont tout à fait percutants et brefs. Il y a chez vous un goût comme ça du coup de bec, un goût de la phrase sèche, électrique, frénétique, presque incisive. Comment avez-vous travaillé l'écriture ?
Il y avait une sorte d'urgence, je pense, dans l'écriture. Disons que la trame narrative, j'aimais bien l'idée de pouvoir partir dans tous les sens. C'est-à-dire que, par exemple, la mère se fait buter en plein roman au détour d'une page, puis c'est un non-sujet. J'avais envie de... Il y avait un sincère amour pour le mot, une gourmandise du parler, de... un plaisir de l'image que j'avais envie de mettre en avant. Et puis surtout, dans ce roman, je parle beaucoup de qu'est-ce que c'est qu'un punk, qu'est-ce que c'est qu'être marginal.
Les vrais punks n'ont pas de crête, je vous cite.
Voilà, donc les vrais punks n'ont pas de crête. Est-ce que le vrai punk, c'est pas plutôt le gars qui ne branle rien, qui erre à longueur de journée, qui est une sorte d'oblomov moderne, qui fout rien, qui passe son temps juste à rester immobile. J'avais envie que l'écriture soit marginale. Dans le sens où elle joue avec plein de choses. L'écriture est à la fois vulgaire, trash, en même temps parfois il y a une sorte d'errance poétique, et puis il y a aussi quelque chose que j'adore, c'est la caricature, et je trouve que la caricature littéraire, c'est un territoire des possibles assez éblouissant. Et la cagole est une femme.
Un personnage un peu balsacien, un peu.
Oui, c'est une femme, je trouve.
Un peu belge aussi à sa manière.
Il y a des cagoles belges à Ostende. Oui. J'ai vu d'autres formes de cagoles qui se. Mais la cagole, c'est celle qui est tellement fine qu'elle s'est caricaturée avant qu'on le fasse pour elle. Et il y a quelque chose de. Enfin, je trouve que la cagole est une sorte de guignol triste, assez fascinant. Et j'adore la pudeur de celui qui se caricature. La tristesse du guignol, moi, c'est un truc qui me fascine.
Merci Esther Teilhard, merci Fabrice Duvels d'avoir été ce soir l'invité de Mauvais Genre. Donc demain, vous savez, auditrices, auditeurs, ce qu'il vous reste à faire, vous allez d'abord acheter Carne et puis ensuite, vous allez voir le dossier Mal d'Aurore au cinéma. Vous pouvez aussi commencer par le dossier Mal d'Aurore et en sortant, vous achetez Carne. C'est le conseil de Mauvais Genre pour ce week-end. Prochain film, Fabrice Duvels, rapidement.
Oula, en fait, j'entame donc une trilogie sur les cauchemars belges. Mmh. Et donc là, je pars au Congo en repérage pour parler de l'exploitation du caoutchouc et de l'État indépendant du Congo, qui n'est pas encore le Congo belge, et de toute la brutalité qui a suivi.
Merci infiniment. Puis si vous voulez vous quand même vous rappeler que Berroyer est un type formidable, lisez ses mémoires aux éditions Le Dilettante. Il n'est pas que méchant. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleré, Paul Guy, Claire Poissignon, Claire Martin-Dugard, Philippe Royer, Fausto Fazulo et François Angelier, vous remercie d'avoir suivi cette émission. La semaine prochaine, nous évoquerons les gardiennes des morts avec Juliette Cazès et Laure Cadeau. Merci d'avoir écouté Mauvais Genre.